VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Bamako, midi à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Un deuxième sommet de la communauté d'Afrique de l'Est sur la crise au Burundi est prévu dimanche 31 mai à Dar es Salaam, en Tanzanie. Les manifestations sont pratiquement quotidiennes à Bujumbura alors que les États-Unis condamnent le meurtre d'un leader d'opposition samedi dernier, Claire Morin-Gibourg.
La présidence américaine a pressé le gouvernement burundais d'ouvrir une enquête rapide et impartiale sur le meurtre de Zedi Ferruzi. Washington a également rappelé l'importance de la liberté d'expression, particulièrement en cette période électorale, réitérant son appel à la reprise immédiate de la diffusion des programmes des radios indépendantes. Une personne est morte et 21 autres ont été blessées suite à de nouvelles manifestations lundi où les contestataires dénonçaient le meurtre samedi soir de l'opposant Zedi Ferruzi. Le mouvement anti-troisième mandat a dénoncé un assassinat politique et mis en cause le camp présidentiel qui a lui rejeté toute responsabilité.
La situation sécuritaire dans les pays d'Afrique centrale a été évoquée hier à N'Djamena à la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Écoutons à ce propos le président tchadien Idriss Déby Itno, président sortant de l'organisation.
Le climat d'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, en République centrafricaine et dans la région des Grands Lacs, par exemple, nous interpelle. Le Burundi, qui a eu une expérience exaltée dans le domaine du maintien de la paix en Afrique, ne mérite pas la situation de déstabilisation dans laquelle il est en train de plonger. Tout en condamnant le coup d'État manqué dans ces pays frères, et l'assassinat de l'opposant Zedi Ferruzi, nous demandons au président de la République Nkurunziza, à toute la classe politique, à la société civile, de maintenir le cap de dialogue en vue de rassembler toutes les filles et tous les fils de Burundi.
Le président tchadien Idriss Déby Itno, dans un extrait fourni par FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena. Au Nigeria, peut-être finalement une solution à la pénurie de produits pétroliers dans le pays. En effet, un accord a été trouvé hier lors d'une rencontre entre la Commission des ressources pétrolières, les représentants du gouvernement fédéral et ceux des grossistes. Ces derniers avaient arrêté la distribution du carburant, accusant le gouvernement de ne pas leur avoir versé l'équivalent d'un milliard de dollars qu'il leur doit. Une décision qui avait pratiquement paralysé l'économie nigériane ces dernières semaines. Pour une réaction, Timothée Donangmaya a joint à Zaria, dans le nord du Nigeria, le professeur Oudou Ayouba, qui enseigne les sciences politiques à l'université Amadou Bello.
Je ne pense pas que ce soit un problème de l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai que c'est nos représentants, mais je pense que c'est l'exécutif qui doit résoudre ce problème. Puisque l'exécutif n'arrive pas à résoudre ce problème, c'est pourquoi le Sénat est intervenu. Et puis, bon, ils disent qu'ils ont eu un accord avec les fournisseurs, mais là, sur le terrain, rien de concret.
Alors, quels sont les griefs des fournisseurs?
L'État subventionne le carburant au Nigeria. Ça coûte à l'État des milliards de naira que les fournisseurs prennent comme subvention. Et puis, ils n'ont pas payé ces subventions-là pendant plusieurs mois. Et puis les fournisseurs, ils ont arrêté de fournir le carburant sur le marché. Il y a de cela un mois, l'État a versé de l'argent à ses fournisseurs, mais il semble que ce n'était pas le montant complet. Donc c'est une sorte de grève de la part des fournisseurs ou quoi, on ne comprend pas. Mais bon, voilà, c'est ça la situation.
Alors vous vivez à Zaria, à des milliers de kilomètres des raffineries de pétrole. Comment vivez-vous la pénurie là-bas?
Très, très difficile, très difficile. Là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. On achète au marché noir à plus du double du prix du carburant. Plus le temps va, plus ça devient plus cher, parce que chaque jour, le prix des produits de consommation a augmenté, parce que là, le transport a augmenté, le prix du transfert a augmenté, donc tout a augmenté.
Qu'est-ce que tout cela représente comme défi pour le président élu, Muhammadu Buhari, qui prend fonction cette semaine?
vraiment, ça sera très difficile pour lui, parce que là, les gens parlent déjà du sabotage. Hein. C'est comme si c'était un sabotage de la part du gouvernement sortant. Le transfert de pouvoir, ce sera le vendredi 29. Bon, et puis, avec tout ce qui se passe là, bon, les gens parlent d'un sabotage, quoi.
Le professeur Oudou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université Amadou Bello, à Zaria, dans le nord du Nigeria.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, un casque bleu de la mission de l'ONU tué et un autre grièvement blessé par des tirs d'assaillants non identifiés dans la nuit de lundi à mardi à Bamako, la capitale. L'attaque et son bilan ont été confirmés à l'AFP par une source de la MINUSMA, selon laquelle les deux victimes appartiennent au contingent du Bangladesh. Niger. Alors que la garde à vue de l'acteur de la société civile Moussa Tchangari vient d'être prolongée dans les locaux de la brigade antiterroriste de Niamey pour association de malfaiteurs en coopération avec le groupe extrémiste Boko Haram, une autre figure de proue de la société civile, Nour Mamadou Arzika, est elle aussi en garde à vue depuis hier soir, cette fois-ci à la police judiciaire. Arzika est accusé d'atteinte à la défense nationale, toujours en rapport avec la guerre que mène le pays contre Boko Haram. On écoute le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Il y avait ce lundi matin, au siège du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, une ambiance peu ordinaire. Les différents membres réunis sont sollicités de toutes parts pour donner des nouvelles du président du mouvement qui a passé la nuit dans les locaux de la police judiciaire de Niamey. C'était la troisième convocation de Nour Mamadou Arzika en l'espace de 48 heures. Et c'est à cette troisième convocation qu'on lui notifia qu'il sera placé en garde à vue pour atteinte à la défense nationale. Nayoussa Jimraou, membre de l'association de Nour Mamadou Arzika.
Ce chef d'inculpation nulle part au monde. Même dans les livres de grammaire ou de lecture expliquée, je n'ai jamais rencontré une expression pareille. Alors, comme c'est des spécialistes de complot, ils peuvent comploter la sorte. Coller un chef d'inculpation pareil à nous, ça ne le sait pas. Nous, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour l'unité nationale, la défense de la nation, surtout en matière de soutien aux forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc aujourd'hui, que les gens fassent cette trouvaille, moi je trouve qu'ils ont trouvé mal l'expression. L'expression que c'est, nous devrions être poursuivis pour atteinte aux intérêts égoïstes et particuliers des uns et des autres, voire les chefs d'inculpation sur lesquels nous devrions siéger là-bas.
Le péché de Nour Mamadou Arzika aura donc été de se laisser joindre au téléphone par des éléments des forces de défense et de sécurité nigériennes sur le terrain de guerre contre Boko Haram à Diffa pour les entendre décrire leurs conditions difficiles, mais surtout de faire le rapprochement entre ces difficiles conditions et une certaine extravagance de la hiérarchie politique de ces forces de défense et de sécurité ici à Niamey notamment.
Nous avons dit ceci, au moment où les pays en guerre, qu'on trouve un ministre de la Défense qui se rabougrit pour être un ouvrier, un manœuvre en train de distribuer des brouettes, des balais, des charrues, des coupes-coupes et même des haches dans les quartiers, soi-disant qu'on va faire Niamey-Niala, alors que les militaires qui sont sur le front les appellent constamment pour leur faire part de leur situation de détresse parce que les gens ont faim. C'est leur propre expression qu'elle appelle les prisonniers. Alors c'est cela, on est en train de chercher à demander nous, ces militaires-là finalement, ils sont qui? Pourquoi ils vous appellent? Nous attendons que nous soyons déférés devant le parquet et nous verrons la suite de ce que ça va donner. Nous sommes en état d'éveil permanent et il n'existera pas. Il n'est pas arrivé encore quelqu'un dans ce pays qui puisse croire qu'il va nous empêcher de nous exprimer.
Le président du MPCR va donc devoir attendre demain ou encore 48 heures de plus pour être présenté devant le parquet qui décidera ou pas de le poursuivre. Entre-temps, l'alerte de la mobilisation autour de cette nouvelle épreuve est lancée par ses camarades.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Kenya, selon les informations en provenance de la région de Garissa, dans l'est du pays, une vingtaine de policiers auraient été tués dans la nuit de lundi à mardi dans deux attaques attribuées aux militants du groupe extrémiste Al-Shabaab. La police nationale kenyane ne confirme pas ce bilan. Al-Shabaab a revendiqué les attaques. Et puis, le gouvernement irakien annonce aujourd'hui avoir lancé une offensive pour reprendre aux djihadistes du groupe État islamique le contrôle de la province d'Al-Anbar, dans l'ouest du pays. Et ce, moins de deux semaines après la chute de Ramadi, chef-lieu de la province, aux mains de l'État islamique. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com ou alors notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.